La nuit du 20 septembre 1789, à la faveur d'un répit que Paris semblait s'être accordé, les rues du quartier du Temple paraissaient calmes et silencieuses, et les rares fenêtres allumées aux façades des maisons répandaient sur les trottoirs de douces traînées luisantes. On eût dit que la capitale, éreintée, s'était enfin endormie. On se trompait. À minuit passé, dans un bruissement, une silhouette apparut à l'entrée de la rue des Filles du Calvaire, se découpant sur les rayons d'une lune d'argent. Et c'était bien une figure formidable, celle du justicier masqué que l'on avait surnommé le loup des Cordeliers. Très peu de Parisiens pouvaient affirmer l'avoir vu de leurs propres yeux. Et la rumeur disait que les rares malheureux qu'il avait croisés n'étaient plus là pour en témoigner. Cela était exagéré, bien sûr, comme le sont les légendes, mais ce que personne n'avait jamais vu, en vérité, c'était cette seconde silhouette, plus petite, qui se dessina derrière lui l'instant d'après, celle d'un jeune garçon. « C'est là, monsieur !» murmura Popin en tendant l'index vers les ténèbres, avant de regarder le loup d'un air impatient. Drapé dans une cape de futaine noire dont la capuche cachait son visage, Gabriel Joly, car il s'agissait bien de lui, acquiesça doucement. Après quelques pas furtifs, il fit signe à son jeune protégé de le suivre sans bruit. Tous deux s'engagèrent dans un escalier de pierre qui, à quelques encablures de la maison générale des Bénédictines, descendait vers les entrailles de la capitale. Ils s'arrêtèrent sur la dernière marche, devant la grille de fer qui barrait l'entrée des égouts, comme les dents alignées de quelque créature tellurique, soufflant sur la ville les vapeurs d'un enfer pestilentiel. Le Temple était l'un des rares quartiers de Paris où l'évacuation des bouts du pavé, des détritus domestiques et des déjections humaines ne se faisait plus par des fossés à ciel ouvert, mais par ces conduits souterrains voûtés qu'alimentait l'eau des sources de Belleville. C'étaient de longs corridors, étroits, fort lugubres, à peine assez hauts pour qu'un homme pût y évoluer, et ce à condition de ne point craindre les immondices, les rats et les insectes qui infectaient les lieux.
« Diablezotte ! Ils ont mis un cadenas, monsieur Joly !»
se désola le jeune orphelin en découvrant la chaîne qui entravait la serrure.
« Ne m'appelle pas par mon nom, Triplandouille !»«
Ah oui, pardon, monsieur !»
Gabriel lui adressa un clin d'œil rassurant et sortit de sous sa cape une trousse de crochetage. «
Regarde un peu comment je m'y prends, Popinck. Il va falloir que tu apprennes. »
Il inséra un petit tensionneur dans le cadenas pour appliquer une pression sur le cylindre, puis à l'aide d'un crochet, souleva les goupilles une à une, prêtant l'oreille. Tu dois sentir le léger cliquetis qui indique que les goupilles sont alignées au bon endroit. C'est ce qu'on appelle la ligne de césure. Ce disant, il parvint à ouvrir le cadenas. Les yeux de Popinck brillèrent d'admiration. « Reste sur tes gardes », lui intima le loup en poussant la lourde grille. Ils s'enfoncèrent prudemment dans le tunnel, leurs pas clapotant sur le sol. Plus ils avançaient, plus le couloir s'obscurcissait et plus grandissait la puanteur des eaux croupissantes.
« Allume une torche !» murmura Gabriel.
Le garçon s'exécuta et, dans un battement de briquet, la lumière fut, dévoilant les environs de ce cloaque sordide. Après quelques pas encore, Joly secoua la tête, tant il peinait à croire qu'il put trouver, en pareil lieu, ce qu'il cherchait.
« Tu es certain que c'est là ?»
« Malheureusement, oui, monsieur. Faut aller jusqu'à la première intersection et prendre à droite. »
Ils progressèrent avec circonspection dans ce boyau humide et silencieux qui évoquait les viscères d'un effroyable monstre chthonien. Au milieu du canal, les eaux coulaient paresseusement, congestionnées de pourriture et d'excréments. Et ici et là, on devinait la silhouette furtive de rats gros comme des chats qui s'enfuyaient devant les lueurs de la flamme. C'était le propre de l'homme moderne que de rejeter ses déchets dans le cœur de la terre, où, à vrai dire, se répandait une fange qui portait le fardeau du monde du dessus. Paris, oserions-nous dire, cachait sa merde, désormais.
« Là-bas, regardez !» chuchota Popinck. « C'est cette porte !»
De fait, à l'angle de l'intersection souterraine, Gabriel avait aperçu une lanterne dont la lumière vacillante éclairait une lourde porte en fer. Dans un soupir, la mine sombre, il dégaina son épée. « Reste derrière moi. » Il n'était plus qu'à quelques mètres quand ils perçurent le son étouffé de claquements secs et réguliers, comme un tambour funèbre s'élevant des profondeurs. Des machines. Lorsqu'ils furent enfin devant la porte, Gabriel fit signe au garçon de se plaquer contre le mur, puis il actionna précautionneusement la poignée. Comme il s'y était attendu, la serrure était fermée. De nouveau, il usa de ses talents de cambriole et, sans grand-peine, crocheta la porte. Sans faire de bruit, il jeta un coup d'œil à l'intérieur pour découvrir une sorte de vestibule obscur. Personne. Les sons mécaniques résonnaient à présent plus distinctement, comme ils venaient de derrière une seconde porte, en bois celle-là. Les deux compères se glissèrent dans le vestibule. « Tu restes ici et tu attends mon signal. »«
Entendu, monsieur. »
Gabriel se plaça devant la seconde porte, inspira profondément, puis envoya un coup de pied phénoménal au niveau de la poignée. La porte s'ouvrit dans un fracas retentissant et alors, ils purent voir tous deux le triste spectacle qui se cachait ici, sous le ventre de Paris. C'était ce que l'on appelait un atelier d'enfants, sorte de manufacture clandestine, où un odieux maître, à l'encontre des règles les plus élémentaires de la corporation, retenait des gamins des rues contre leur gré, nuit et jour, et les faisait travailler sans relâche à la confection de gants et de bas de soie. Il y avait là une douzaine de pauvres gosses, qui, les pieds attachés à de lourdes chaînes, véritables esclaves de la barbarie adulte, s'acharnaient docilement sur des métiers rudimentaires, ne recevant pour salaire qu'une paillasse, du pain dur et quelques coups de fouet. Popinck avait appris par l'un de ses anciens compères mendiants que le maître des lieux, un certain Sieur Lemoine, infligeait à ses jeunes ouvriers les plus mauvais traitements, à l'abri des regards, puis vendait leurs ouvrages à une modiste du Palais Royal, qui, à un prix défiant toute concurrence, les revendait elle-même à la petite noblesse, jurant que les pièces venaient de Lyon ou de Bruges. Tout le monde avait à y gagner, sauf les enfants, bien sûr, et c'était un spectacle fort révoltant que ces bambins abîmés, qui n'avaient guère plus de 7 ou 8 ans, affamés, décharnés, aux mains rugueuses, gercées, le visage creusé, le dos voûté par l'effort. À bout de force, empêchés de prononcer la moindre parole, ils s'épuisaient à la tâche dans la plus scabreuse insalubrité, à la lumière des chandelles qui peinaient à illuminer l'air saturé de poussière textile. Quand l'un tombait d'apathie, après des semaines de labeur, et qu'il n'était plus à même de se remettre au travail, on le jetait à l'égout, et l'on en faisait venir un autre, pioché parmi les petits vagabonds de Paris. Et ainsi donc, tous ces enfants s'étaient pétrifiés dans un sursaut, comme saisis par une main invisible lorsque la porte avait volé en éclats. Lors, stupéfaits, ils virent entrer le loup des cordeliers dans l'atelier, tel une rafale de vent furieux. Sa cape claqua derrière lui, tandis que l'arme au poing, il se dirigeait tout droit vers un homme qui, assoupi sur une chaise, venait d'être réveillé par le vacarme. Le gardien, un mauvais bougre au corps gras et luisant, n'eut pas même le temps de se lever, car déjà la pointe de l'épée de Gabriel se pressait sur sa gorge. « Pas un souffle, misérable, ou ce sera ton dernier ?» Joly, le regard venimeux, attrapa le trousseau de clés à la ceinture du méchant homme. « Popinck ! » cria-t-il par-dessus son épaule, à l'adresse de son jeune protégé. « Détache les enfants et emmène-les au refuge !» Aussitôt, le garçon entra dans la pièce et attrapa le trousseau au vol. « Vous venez pas avec nous autres ?» s'étonna-t-il, alors qu'il détachait les enfants un par un. Ceux-ci, accablés tant par la surprise que par leur condition, semblaient effrayés. Il fallait même les pousser pour que, libérés, ils se décident à fuir enfin. « Je vous rejoindrai plus tard, » expliqua Gabriel. « Ce monsieur et moi allons avoir une petite conversation. N'est-ce pas ?»«
Je... »
Mais avant que l'homme eût pu dire quelque chose, une porte masquée par l'alignement des métiers à tisser s'ouvrit brusquement et un nouvel individu apparut dans l'atelier. Celui-là ne portait pas de clé, mais une épée. Après un instant d'hésitation à l'aide du pommeau de la sienne, Gabriel assomma le premier homme sur sa chaise, puis, en garde, s'avança vers le second. « Dépêche-toi, Popinck, sors-les d'ici !» Bientôt, Joly se trouva face à son adversaire. Grand, solidement bâti, le scélérat avait la carrure et le calme d'un soldat aguerri. Un sourire oblique, insolent, se dessina sur ses lèvres.